simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir.
Bonsoir. De l'importance de rester concentré sur ce qu'on est en train de faire. Alors, ben, ce soir, deux parties dans notre émission et dans notre retour en plein direct après ces deux excellentes émissions sur l'Algérie et sur le colonialisme avec le camarade Nachtili Moussa, dont on ne peut que vous inviter à suivre le blog d'une part et les écrits d'autre part et les quelques interventions que vous pouvez glaner ici ou là sur Internet ou à la téloche. Alors, on va revenir sur une lutte qui a été victorieuse et dont on vous avait parlé. C'est tellement rare que il faut évidemment faire la publicité de ces luttes qui gagnent, comme quoi c'est possible, même si le niveau d'affrontement est de plus en plus fort, de plus en plus long, de plus en plus dur, et que les rapports de force qu'il faut créer pour pouvoir arracher ne serait-ce que le minimum sont vraiment hyper importants. Il faut quasiment mettre sa peau dedans. Alors cette lutte, c'est celle des coiffeuses, des esthéticiennes, mais aussi des salariés, tout simplement, puisqu'il y avait des garçons dans le lot, du salon de beauté, de coiffure et d'esthétique du 65 boulevard de Strasbourg. Le boulevard de Strasbourg, c'est une super grande rue à Paris, c'est même un boulevard, hein, comme son nom l'indique, ce qui fait une très grande rue, c'est souvent le cas des boulevards, qui se situe près de la gare de l'Est, hein. Pour ceux qui connaissent, donc vous descendez tout droit, puis vous allez à gauche. Et voilà, vous avez le grand boulevard de Strasbourg, qui est un lieu assez connu pour ces salons de coiffure à dominante africaine, mais pas que. Il y a aussi des Asiatiques qui bossent là-bas. Et puis donc, c'est un grand, grand lieu de passage, puisqu'on est sur un quart dans le 11e arrondissement, le 12e, et puis on va aller vers le 19e et le 18e après. Donc, il y a beaucoup de passages, ça brasse beaucoup, c'est assez popu. Il y a, c'est encore un des rares endroits de Paris où c'est populaire. Il y a beaucoup de circulation. Il y a évidemment une population laborieuse qui est, si ce n'est pas résidente dans ces quartiers, en tous les cas de passage. Et donc, ces salariés, ces travailleurs et ces travailleuses de ce genre de coiffure, elles étaient en grève depuis plus de 2 mois, 78 jours. Pour à la fois revendiquer leurs droits de salariés, mais aussi revendiquer des papiers, puisque la majorité de ces salariés étaient en situation irrégulière et surtout étaient dans une situation d'exploitation à la fois en termes de quantité de travail, hein, c'est-à-dire des masses importantes de travail pour un salaire assez faible, mais aussi dans une escroquerie générale liée au papier, à leur situation sur le territoire français, et ensuite en situation d'insécurité sur le lieu de travail, puisque les salons d'esthétique et les salons de coiffure sont des salons où on manipule des produits toxiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des diplômes, et c'est pour ça qu'il y a une compétence professionnelle. Donc quand on vous parle de supprimer les CAP et les bacs pro sur les métiers comme ça, hein, les maçons et les trucs d'esthétique et de coiffeur, il faut pas, parce que que il y a manipulation de produits toxiques. Faut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a une compétence professionnelle. Et donc, elle manipulait des produits qui étaient super hard. Enfin bon, je résume ça assez mal. Elles vont elles-mêmes le faire à travers cette petite interview qu'on a récupérée par-ci par-là. Il y a trois intervenantes. Hein. Il y a Adèle de la CGT qui les a accompagnées dans cette grève. Adèle du collectif Migrants. Il y a Fatoumatou, Bintou. Il y a Marie Vera qui ont été deux des salariés qui ont fait grève pendant 78 jours et qui ont gagné sur pratiquement toute la ligne. Il reste encore des thunes à récupérer, mais ça, ça va pas tarder puisque on va dire l'esclavagiste est coincé et donc va être obligé de tout lâcher. En tous les cas, déjà, elles ont leurs papiers, même si évidemment, c'est une situation qui est régularisée par rapport au boulot, au travail, et donc ce qui fait que ces situations sont hyper précaires et sont liées aux contraintes de travail avec des cartes de 1 à 4 ans qui restent évidemment pas les cartes de 10 ans, donc il y a toujours pas forcément une sérénité qui est acquise à ça, mais bon, tout cela elles vont vous le dire, on va écouter en espérant que ça parte le plus rapidement possible, s'il te plaît Camille.
T'as eu un contrat de travail.
J'ai eu un contrat de travail, merci beaucoup Adèle. Mmh. Et quelle était la condition que le patron m'avait posée? C'était que il allait prendre 250 euros de mon salaire pour que je puisse avoir des fiches de paye et que je puisse aussi aller à la préfecture. Donc, il connaissait très bien que j'étais vulnérable et j'avais besoin d'être régularisée pour avoir une vie normale. Donc, c'est comme ça qu'il a profité pour faire asseoir son escroquerie. Et voilà. Pendant 5 ans, j'ai payé 250 euros pour avoir des fausses fiches de paye.
Oui, bonjour à tout le monde. Ça s'est passé de la même façon, mais seulement ce qui est un peu différent, c'est-à-dire chaque employé, chaque travailleur avait son mois, c'est-à-dire son jour du début du travail avec le patron. Donc chacun avait son mois, mais c'est comme ça s'est passé. Effectivement, tous les mois, il nous a dit qu'il allait nous déclarer et qu'il devait nous prélever les 250 euros pour pouvoir avoir un contrat de travail et des fiches de paye. Voilà la préfecture, puisqu'on n'était pas régularisé. Donc c'est ainsi que nous sommes restés avec lui. Nous avons travaillé comme ça, nous avons été exploités, puisqu'on ne connaît pas aussi la loi. Bon, nous, on voulait vraiment les papiers, tout et tout. Donc raison pour laquelle on était obligé d'accepter.
Moi, je suis prothésiste angulaire. Et elle est coiffeuse. Donc, il y a eu ce mélange de produits parce que nous, les prothésistes, on utilisait les produits qui n'étaient plus dans les normes, quoi. Okay. Et elle également, elle utilisait des produits qui émanaient des odeurs vraiment toxiques. Et ce mélange était. C'était fort. Et on n'avait pas. De boucher d'aération. Il y avait un faux VMC qu'il avait fait installer juste pour troubler la vigilance des inspections de travail au cas où il devait en avoir
un. Il y en a déjà eu, pardon, oui, l'inspection du travail est déjà passée.
Oui.
Et il y a eu des conséquences, il y a eu une suite.
Au départ, au début, il n'y a pas eu de suite, quoi. Donc ils sont passés avec le CODAF. Il y a eu une descente de CODAF. Il y avait l'inspection de travail.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plusieurs administrations qui se sont intéressées à cette entreprise. Donc l'inspection du travail, la douane, l'URSSAF. Les finances publiques et donc ils sont venus en même temps au salon. Ce qu'il faut voir par rapport à l'inspection du travail, c'est qu'elle est en train de réaliser en ce moment une enquête très poussée sur ce qui s'est passé dans ce salon. Donc ils font leur travail, mais nous, ce qu'on voit, c'est que elles ont été mises dans des conditions de travail qui sont indignes, puisque il y a cette histoire de produits chimiques, mais ces produits chimiques qui sont pas dans les normes. Par ailleurs, il y avait pas non plus de VMC ou d'extraction d'air. Et l'endroit, bah, pour les nombreuses personnes qui nous ont visités au salon, savent qu'il est hyper confiné. Ouais. Et puis, il y a aussi des horaires.
Mais c'est ça, ce que j'allais... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore,
ouais,
des horaires.
Les horaires, c'était quand même au minimum 60 heures de travail par semaine.
Donc, si tu t'arrêtes, tu n'es pas payé. Pas de congé maternité pour mes trois collègues qui sont tombées enceintes dans le magasin. Donc, elles n'ont pas eu de congé de maternité.
Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont travaillé jusqu'à la veille de leur
accouchement.
Et ensuite, elles se sont arrêtées environ un mois sans être payées. Donc, vous imaginez avec un nourrisson sans toucher son salaire.
Voilà.
Et en plus, en respirant peut-être après des substances qu'on imagine...
Pendant, après, tout le temps, en fait.
C'est ça.
Et tout ça, ça a été permis aussi parce que, du coup, votre patron connaissait un peu votre situation administrative et qu'il en a un peu abusé, c'est ça ?
Oui. C'est-à-dire qu'il a abusé parce qu'il se disait que peut-être on n'a pas les papiers. Mm-hmm. Bon, on n'a pas les moyens aussi d'en trouver. Donc, on s'est dit quoi ? C'est avec lui, on travaille, il nous rassurait. Il dit non, attendez, les fiches de paie, le contrat de travail, tout et tout, les 250 euros, c'était pour les charges, tout et tout. Vous allez avoir les papiers, on va vous régulariser, tout et tout. Donc, nous, on a été burnés, comme on le dit. Ouais. Et vraiment, on a été exploités. Bon, c'était pour les papiers. Donc, il fallait qu'on puisse rester avec lui pour pouvoir être régularisé.
Bon,
les congés payés, on n'avait pas le choix. Les congés payés, c'était pareil. Médecin du travail, on ne connaît pas. On n'a jamais connu médecin du travail. Les navigos, tout et tout. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons encore pour pouvoir payer, régler tout et tout. Donc, on restait là-bas 7 jours sur 7. On allait souvent même avec nos enfants. On reste là-bas jusqu'à minuit, 1h du matin. On reste au salon avec les clients. On coiffe, on travaille. Bon, nous, on coiffait. Elles sont esthéticiennes. Donc, elles s'asseyaient beaucoup. Nous, on s'arrêtait beaucoup. On peut s'arrêter le matin, ce qu'on soit, on n'a pas l'heure de pause, on n'a rien. On était là comme ça. Donc,
même assise, la posture n'était pas adéquate. On était penché, oui. Et des fois, il fallait tenir. Quand tu veux faire la pédicure, tu dois mettre le pied de la cliente sur ton genou et te courber. Et franchement, ça n'allait pas. Donc, à chaque fois, j'avais mal au dos. Je devais me faire consulter par un médecin et je n'avais pas d'assurance maladie, je n'avais pas de truc, je n'avais pas de carte vitale, je ne jouissais plus de l'AME. Donc si je tombais malade, je payais de mes propres poches. Et donc, pour revenir sur la façon dont il nous rassurait, c'est un monsieur qui savait vraiment parler, il savait vraiment comment nous rassurer. Et chez moi, il me disait, mais toi, ça fait déjà 7 ans que tu es là. Donc, il te faut fournir encore plus d'efforts. Voilà. Donc, il avait cette façon peut-être de nous rassurer, de dire que voilà, tu es déjà proche du but. Donc, il faut continuer. Donc, et moi, je me voyais, si je continue, il dit, voilà, c'est 7 ans, il faudrait que je monte un dossier pour déposer à la préfecture et voilà. J'aurais une régularisation et voilà.
Et à partir de quand vous êtes dit non mais là c'est plus possible, ça fait tant d'années qu'il essaye de me rassurer mais qu'il m'exploite, etc. Ça a été quoi l'élément où vous êtes dit non là ça suffit, c'est plus possible, j'arrête de croire
Les biais d'une de nos collègues.
L'élément du plancher, c'est les salaires.
Les salaires non payés.
C'est les salaires non payés qui nous ont poussés à...
Parce qu'à un moment, ils ont arrêté de payer vos salaires totalement.
Justement, à un moment donné, on ne recevait plus, on ne percevait plus les salaires. Et ça devenait de plus en plus dur pour nous. On a dû puiser dans la réserve que nous avions. Donc, pour survivre, on a les loyers, on a la famille, on a les enfants, on a des charges. On n'arrivait plus. On était étouffés. Donc, on s'est dit, voilà. C'est ça qui est monté dans la tête de ma collègue, mon homonyme Bintou, que je salue, et qui est vraiment, on appelle, c'est elle l'élément déclencheur, parce que c'est elle qui a eu cet accrochage avec le patron. Elle était fatiguée. Elle avait son papa qui était malade. au final, il est décédé. Donc, elle avait son papa qui était malade et elle avait besoin pour... elle avait besoin de son argent, elle avait besoin de sa paye. Et voilà. Elle a dit au patron que je suis fatiguée de travailler dans ces conditions. Si tu ne me payes pas mon argent, mon salaire, moi, je m'en vais. Mmh. Le patron, il a dit, ah, tu peux aller. Donc, voilà.
Pendant combien de temps il ne vous l'a pas payé, le salaire?
Ça dépendait parce que, comme je le disais tantôt, c'est un monsieur qui savait, je ne sais pas, il savait comment jouer avec des gens. Mmh. Donc, moi, je suis la personne qui... peut-être doit avoir le plus de...
D'ancienneté
Pas d'ancienneté, de plus d'aïré de salaire. Donc j'ai beaucoup cru en son mensonge. Et voilà. Et ça
passait plusieurs mois.
Pendant plusieurs mois.
4-5 mois chacun.
Voilà, au moins 4-5 mois. Voilà.
Et du coup, face à cette situation, vous décidez de contacter un syndicat, notamment la CGT. Mmh. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes dit, OK, bah maintenant, on va se faire aider, accompagner, prendre conseil? Comment s'est passée la prise de contact avec la CGT?
La prise de contact, c'est... Excuse-moi. Non, tu veux parler? La prise de contact s'est passée, c'est Bintou, donc je vous ai parlé. C'est Bintou qui, à travers l'une de ses connaissances, qui lui dit « Ah, tu peux te faire aider par un syndicat, et voilà, et qui a donné le numéro, et qu'elle a appelé pour prendre un premier rendez-vous. Mmh. » Elle est partie, et nous ne l'avons pas suivie, parce qu'on était toujours dans la bulle, donc on était toujours Bernie. Mmh. On a dit « Ah non, il nous a promis, il a dit que le mois, si, il va solder tout le compte, les comptes et tout. Mmh. » Donc, voilà, et on s'est dit « Ah voilà. » Et elle est allée, et puis ensuite, elle est revenue, elle nous a convaincus, et puis on a dit « Voilà. »
C'est parti.
Et à ce moment-là, du coup, toutes les coiffeuses et esthéticiennes ont fait grève avec vous. Enfin, le mouvement a été vraiment unanime au sein du salon.
Oui, ouais. Okay. Parce qu'auparavant, il a dit à Bintou de démissionner, puisqu'elle a oublié peut-être le côté là. Il a insisté, il a commencé à la menacer qu'elle démissionne. Donc elle a dit non, je ne peux pas démissionner parce que tu nous dois. Voilà, il faudrait payer nos salaires d'abord avant que je ne démissionne. Donc c'est ainsi qu'elle est allée voir nos camarades. Elle a un camarade qui connaissait nos camarades de la CGT et elle est rentrée en contact avec eux. Et c'est ainsi qu'elle est venue, elle a essayé de nous rassurer, elle nous a appelé pour nous dire non, voilà, voilà. Et on l'a suivi aussi. Donc c'est parti de là.
Et vous, Adèle, j'imagine à la CGT, vous recevez cet appel, cette première prise de contact. Comment ça se passe? C'est quoi votre rôle à ce moment-là, vous?
Alors on les a reçus. On a reçu Bintou et deux autres coiffeuses dans un premier temps. Mm-hmm. Et tout de suite, on s'est rendu compte en fait que il y avait une situation vraiment gravissime au-delà de ce qu'on voit quotidiennement qui se passait dans cette entreprise. Et du coup, on a commencé à organiser des réunions régulières avec les coiffeuses. Et ces réunions, bah si vous avez bien compris la situation, en fait, elles peuvent pas avoir lieu du lundi au samedi. Donc en fait, sur leur seul jour de repos, le dimanche, on faisait des réunions. On a fait 5 réunions de suite les dimanches pour comprendre la situation de manière assez précise et puis surtout pour organiser la grève. Parce que lancer une grève comme ça avec une occupation d'entreprise, c'est quelque chose qui demande une très bonne organisation pour être sûr que à la fin on gagne. On commence pas une bataille comme ça pour perdre. Mmh. Et en plus, il fallait qu'on noue une vraie confiance entre nous, parce qu'en fait, vous étiez, tu l'expliquais, Bintou, sous la coupe du patron, quoi. Ouais. Donc il fallait que vous ayez suffisamment confiance en nous pour se dire oui, on va se lancer dans cette aventure et puis à la fin on va gagner, quoi. Et ça a été un sacré boulot qu'on a fait. Et quand on l'a senti, on a décidé une date ensemble et puis c'était parti.
C'est ça.
Et justement, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur comment se déroulaient ces journées de grève, comment était tenu ce piquet de grève, etc.
78 jours quand même.
Ouais.
Les journées de grève, ça se passait super bien. Ça se passait super bien parce qu'on était bien organisés. Mmh. Et il y a... on était unanime, on était solidaires déjà.
Vous êtes combien à travailler dans ce salon ?
13.
Donc les 13 personnes qui travaillaient étaient ensemble pour occuper ensemble, et tenir la grève.
Voilà, on était ensemble, 13 personnes, on était ensemble, on était unanime et puis on était vraiment solidaires. Et
on voit des images justement de cette grève. On vous reconnaîtra de temps en temps.
Donc on s'était organisé, il y avait des groupes parfois en journée, si tu t'absentes, on devait s'assurer que d'autres personnes qui aident quand même des camarades sur le piquet. Donc, et en soirée, on avait fait un planning et on se relayait. Donc, on passait les nuits parce qu'on a occupé, on dormait là-bas, on vivait là-bas.
Mais pendant 78 jours, vous allez être relayé pour dormir, manger, pour organiser la vie finalement.
Pour
dans
organiser
ce salon,
la
tout
vie.
Tout petit en plus.
Voilà. Et pour s'en sortir également, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on organisait presque toutes les semaines des petites fêtes pour collecter les fonds et ces fonds qui nous ont permis de tenir. Depuis le jour 1 jusqu'au jour 78.
Waouh! Donc, oui, ouais, sacrée organisation et aussi.
Et du coup, j'imagine, Adèle, vous, le CGT, il ne s'est pas arrêté, a dit bon, bah, allez-y, hop, ça y est, l'occupation s'est lancée. Comment vous avez suivi, accompagné, conseillé, je ne sais pas, les coiffeuses, esthéticiennes, grévistes pendant ces 78 jours?
Voilà. C'est l'avantage d'être accompagné par un syndicat, c'est qu'il y a 130 ans d'expérience de lutte qui sont avec les 13 coiffeuses en grève et qui occupent leur salon. Et donc, en fait, on était là tout le temps. Donc, nous aussi, on a fait notre planning pour être présents et présentes en permanence. La nuit aussi. Donc, il y avait plusieurs tâches, mais je dirais la première, c'est d'assurer la sécurité, parce que à ce moment-là, il y a le patron qui peut débarquer à tout moment. D'ailleurs, nous, on le voulait, puisqu'on voulait ouvrir des négociations, mais il a refusé de négocier.
Il est jamais venu sur les 78 jours ?
Il est venu. Mais il est venu pour mettre la pression, en fait, sur les salariés, pour vérifier, je pense, s'il avait toujours cette emprise. Pour nous mettre la pression à nous aussi, mais bon.
Oui, il a croisé la CGT, du coup. Il a eu la possibilité de parler avec lui, il refusait complètement.
Ça dépendait des moments, c'était un peu erratique, mais comment dire, on a l'habitude des patrons qui sont pas du tout contents qu'on les mette face à toutes leurs malversations, et les siennes étaient particulièrement lourdes. Ouais. Donc, en fait, c'était ça l'avantage, c'est que c'est qu'on a pu conduire. Chaque grève est différente, chaque lutte, et en particulier les occupations, a ses particularités. Donc, on a notre expérience, mais au quotidien, on discute avec les grévistes, qui sont in fine celles qui décident en fait de ce qu'on fait, de comment on continue. Mais nous, on peut apporter cette expérience au fur et à mesure. Et c'est une grève aussi qui, dont le but était d'obtenir des titres de séjour quand même. Et donc, il y a un enjeu qui est au-delà des grèves très importantes, par exemple, pour des augmentations de salaire, parce que là, c'est vraiment la vie des gens qui est en jeu. Et nous, on mesure vraiment cette responsabilité. Et quand on lance ces grèves-là, on se donne les moyens. C'est ce qu'on s'était dit avant. Hein. On sait quand ça commence une grève, on ne sait pas quand ça
finit.
Vous auriez été prête à tenir 10 jours, 20 jours, un mois, un an, je ne sais pas.
Oui, on était...
On n'était pas trop prêtes. Parce que, entre nous, il y avait, je me souviens, c'est Djenéba qui vient. Elle me dit, Bintou, quand est-ce que...
Parlez bien dans le micro, sinon on ne va pas vous entendre.
Donc, elle venait toujours vers moi, Djenéba, pour dire, Bintou, quand est-ce que ça va se terminer? Mais je dis, on n'a pas encore commencé. Je me demande quand est-ce que ça va se terminer. Est-ce qu'on a déjà... On a déjà eu gain de cause. Là, on n'a pas encore eu gain de cause et tu me demandes quand est-ce que ça va se terminer. Est-ce que tu es fatiguée? Elle dit non, elle n'est pas fatiguée quand même, mais elle veut savoir si les choses... Je dis non, ce n'est pas nous qui programmons. Les choses vont suivre leur cours naturellement. Donc, avec les camarades, on doit être patient, c'est ça.
Et justement, vous n'avez jamais perdu espoir, en fait, de gagner cette lutte?
Non.
Et est-ce qu'il y a eu un soutien du coup des partis politiques ou même un soutien populaire des personnes qui passaient dans le boulevard et qui vous aidaient à avoir cet espoir que ce soit enfin victorieux ou...
On rappelle boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement de Paris pour les non-parisiens.
Oui, effectivement, on avait des soutiens quand même des personnes qui passaient, d'autres aussi qui quittaient loin, qui venaient, qui voyaient même le drapeau de la CGT, tout et tout. Donc, qui rentrait aussi par curiosité, qui rentrait pour regarder tout et tout. Et puis, bon, comme on avait les caisses de grève, donc il y a d'autres qui faisaient des gestes, tout et tout, pour nous soutenir.
Ça vous a porté, en fait.
Vraiment, ça nous a motivés. Ça nous a motivés. Et puis, par l'aide aussi de nos camarades de la CGT, on a senti qu'ils étaient là, qu'on n'était pas seuls. Donc, ça nous a plus encore motivés, parce que on faisait les journées, on dormait là-bas aussi avec eux. Eux aussi se sont organisés de leur côté. Personne n'a raté. Ils étaient tous là à tout moment. Nous aussi, pareil. Donc, c'est ce qui a fait aujourd'hui. Nous sommes en arrivée là.
Comment vous avez réagi d'ailleurs quand vous avez appris la fermeture du salon? Oui. Et puis surtout la régularisation, pardon. Est-ce que ça a été une forme de soulagement et une...
Vraiment, ça a été une joie, un soulagement. C'était comme si c'était un poids qu'on avait sur nous. C'est comme si c'était le poids même qui a été déchargé. On était vraiment contents.
Et heureux. Puis une victoire aussi.
Une victoire, immense. C'est vraiment la victoire, une victoire immense. Parce que vraiment, combien de personnes là-bas, et c'était vraiment, c'était la joie. Franchement, c'était la joie. Donc,
une victoire qui n'était pas la nôtre. La victoire était également pour la mairie de 10e. Parce que, oui, pas seulement, je dis, c'était pas parce que c'est un combat. Le combat, c'est le, on a eu le support de la mairie de 10e, la mairie de Paris également, le support des élus, mm-hmm. et de plein de gens dont je ne peux pas, je ne saurais.
Il y en a trop.
Oui, il y en a trop.
On peut pas trop
citer. Dont on ne peut pas citer. Donc c'est leur victoire également. Donc mm-hmm. On les dit merci. Mm-hmm.
C'est évidemment une très grande victoire, mais le combat, je crois, n'est pas encore totalement fini.
Non. Ouais.
C'est quoi la prochaine étape là? Donc vous avez été régularisé. Ouais. La prochaine étape, c'est, j'imagine, de récupérer l'argent qu'on vous a volé pendant plusieurs années. Ouais. Vous en êtes où là?
La prochaine étape, en fait, puisque le patron a refusé de rentrer en négociation avec nous, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de l'entreprise parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de dettes. Et du coup, on va aller récupérer cet argent devant les tribunaux, c'est-à-dire au prud'homme, mais aussi au pénal, puisque nous, notre but maintenant, c'est de faire condamner ce patron mm-hmm. pour traite des êtres humains et mm-hmm. faire reconnaître, en fait, les sévices que vous avez subis pendant toutes mm-hmm. ces années.
Justement, on va peut-être revenir un petit peu sur cette notion de traite d'êtres humains. Donc la traite d'êtres humains, aussi appelée esclavage moderne, est une infraction pénale qui existe depuis 2003. Pardon. Pour être caractérisée, elle doit rassembler trois éléments, l'action, le moyen et le but, qui peut prendre en fait diverses formes. À titre d'exemple, l'action peut être tout simplement le recrutement, comme c'est le cas pour votre situation. Le moyen peut être la menace, l'abus de vulnérabilité, qui est aussi le cas, l'octroi ou la promesse d'une rémunération. Et puis, il y a le but, qui est tout simplement la soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail indignes ou alors la réduction en servitude. Pourquoi aujourd'hui, c'est important que ce soit cette condamnation-là en traite d'êtres humains qui soit retenue?
Alors, c'est important à plusieurs titres. Déjà parce que ces vices-là, ces conditions indignes, elles existent dans notre pays. Il y a eu déjà plusieurs condamnations. Et elles existent de manière, en fait, beaucoup plus massive que ce qu'on pense. Mais on le voit peu, et y compris parfois pas assez dans nos syndicats. Pourquoi? Parce que c'est des salariés qui sont tellement vulnérables que c'est compliqué pour elles de se tourner vers une organisation comme la nôtre. C'est important aussi pour la question de la régularisation, parce que l'attrait des êtres humains ouvre la possibilité d'avoir une carte de résident. Mmh. Donc ça, c'est l'élément central qui a permis que ces salariés soient régularisés, parce que, et ça c'est quand même hyper important de le dire, je pense, cette vulnérabilité qui a permis à ce patron de profiter d'elle, mmh. elle est liée avant toute chose au fait qu'elles n'avaient pas de titre de séjour. Et ce qui les permet de pouvoir faire respecter leurs droits et pouvoir vivre de manière à peu près normale dans ce pays, sans avoir à craindre la police et sans avoir à accepter tout du patron, c'est les titres de séjour. C'est la condition sine qua non pour sortir de cette vulnérabilité, en fait.
Ça, c'est pour la suite des éléments judiciaires, on va dire, et la suite pour vous, personnellement. Vu qu'il y a eu la liquidation, on imagine que du coup, vous n'avez plus d'emploi, vous ne travaillez plus. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez toucher le chômage, peut-être, puisque vous avez été régularisé? Vous en êtes où, vous, là, personnellement, sans forcément rentrer dans les détails, hein, mais pour vous, là, c'est quoi votre vie en ce moment?
Pour le moment, nous sommes... on n'a pas encore entrepris grand-chose. Mm. Et on a un rendez-vous pour se faire inscrire sur France Travail. Et on verra la suite, quoi. Donc, mm-hmm. Pour le moment, nous sommes encore dans notre bulle
de l'euphorie.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut encore vous soutenir? Est-ce qu'il y a encore une caisse de grève du coup qui est disponible ou pas?
Oui, la caisse de grève est toujours en ligne. Et le soutien, ça continue?
Oui. Et si je peux ajouter quelque chose. Nous, on a vécu 2 mois et demi sur le boulevard, vous l'aurez compris, et on s'est rendu compte évidemment que cette situation, elle existe dans d'autres entreprises. Comme je le disais, elle existe parce que l'État ne délivre pas les titres de séjour, parce qu'il considère qu'il y a des gens qui travaillent ici, qui participent à la vie sociale, à la vie économique, qui ne méritent pas de faire valoir leurs droits. Et cette situation, elle est absolument inacceptable, et pour qu'on puisse... pour que la traite d'êtres humains arrête, il faut que la préfecture délivre des titres de séjour à tout le monde. C'est la seule solution.
Pour aller dans votre sens, il y avait Yann Brossat qui avait qualifié le boulevard de Strasbourg, donc là où, était le, où est toujours le salon de coiffure, de zone de non-droit social. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, est-ce que j'imagine que les gens, vos collègues de travail, vos camarades, le salon d'en face, celui d'à côté, est-ce que ça veut dire que on peut imaginer que ce genre, les situations que vous avez vécues, en fait, c'est des situations qui existent dans beaucoup de boutiques de ce boulevard et d'autres, j'imagine.
Effectivement, c'est... nombreuses vivent la même situation que nous, mais elles n'osent pas. Elles n'ont pas ce courage, peut-être, que nous avons eu pour dénoncer. Et
est-ce que ça peut les inspirer, peut-être, d'avoir vu, vous avez gagné?
Ça peut les inspirer parce que j'ai déjà été abordée par une qui est venue vers moi et m'a dit, voilà, elle a la même, elle m'a dit, que son patron lui prenait 520 euros. Donc, je sais pas.
520 euros?
520 euros.
Pour avoir, pareil, la fiche de paye?
Ouais.
Exactement la même chose que vous, mais
deux fois plus cher. Ça veut dire que notre patron, lui, il était un ange. Oui. Donc, 520 euros.
C'est fou.
Ouais. C'est fou. Oui, et j'étais vraiment étonnée. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent aussi peut-être plus pire que nous.
Est-ce que vous... Allez-y.
Voilà. Et bref, le truc, c'est qu'elles ne veulent... Elles n'ont pas ce quoi. Quand elle m'a dit, je lui ai dit, mais j'irai parler avec les camarades de la CGT. Ce qu'elle m'a dit comme réponse, elle m'a dit, nous, on a peur de l'occupation. Donc, elles ne veulent pas, elles n'ont pas ce courage de dénoncer, elles n'ont pas ce courage déjà de sortir de cet esclavage. Donc, elles font face, quoi.
On va reparler un petit peu de la régularisation, de l'enjeu politique de la régularisation que vous avez commencé à aborder avec vous, Adèle. Je suis désolé, on va regarder des images de Bruno Retailleau. Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ici. Mais ça permet un petit peu de poser le cadre que veut nous imposer la droite et l'extrême droite quand on parle de régularisation. On regarde ça, puis on en discute après.
La régularisation, ça n'est pas un droit. Nous nous étions battus et nous avions trouvé des accords pour qu'il n'y ait pas de droit systématique, automatique, opposable à la régularisation. La régularisation, c'est le pouvoir qu'un État souverain peut donner dans son choix d'accepter ou non des étrangers qui étaient venus sur son territoire en situation illégale, donc en fraudant nos règles. Ça doit rester exceptionnel. Il n'y a pas de droit automatique et général à la régularisation.
Alors, ce que vous avez commencé à dire, effectivement, c'est aussi une politique organisée où on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont exploitées dans le pays et dont on profite de beaucoup de travailleurs, justement, à qui on ne va pas donner de papier, qu'on ne va pas régulariser. Et ça fait aussi partie, c'est une forme de contrat tacite, ce n'est pas que le patronat, il y a aussi toute une politique qui est encouragée par rapport à ça. Alors, justement, est-ce que, au contraire, donc pourquoi la régularisation, ce qu'on a commencé à dire, est un enjeu absolument essentiel? Et justement, qu'est-ce que la CGT, justement, elle demande par rapport à ça, dans son truc.
Ouais, écoutez, c'est simple. Je pense qu'on est tous contents de pouvoir avoir une petite coupe de cheveux sympa de temps en temps. Mm-hmm. On est tous contents d'habiter dans des bâtiments qui ont des fondations solides. On est tous contents d'être soignés par des médecins qui parfois ont des diplômes longs comme le bras dans des pays qui ne sont pas la France, et bah, ces gens-là qui font ce travail-là et qui nous permettent de vivre et de vivre en société, et bah, de nombreuses et nombreux d'entre eux vivent en fait dans la peur et en fait sans droit. Parce qu'une vie, vie sans titre de séjour, c'est une vie sans droit. Et donc ça, évidemment, ça permet aux patrons d'exploiter bien plus, et c'est ce qu'on voit là. Et donc le fait de rendre de plus en plus difficile l'accès au titre de séjour n'a absolument pas comme conséquence que les personnes ne viennent pas en France, puisqu'elles viennent en France par nécessité évidemment, mais tout simplement en fait de permettre au patronat d'exploiter toujours plus ses salariés. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que tous les gens qui travaillent puissent être régularisés sans besoin d'un document de leur patron qui prouve que oui, ils travaillent bien, juste sur simple présentation d'une fiche de paye. Et ça nous paraît juste absolument évident. Et je pense que c'est aussi un enjeu hyper important aujourd'hui pour se rendre compte qu'on participe tous à la vie de la société, à la construction sociale et économique de notre société. Enfin, pour le dire un peu vulgairement, mais bon, puisque je suis chez l'humanité, je me permets qu'on fait tous partie d'une même classe sociale. Quoi.
Ah, si c'est ça la vulgarité, je me trompe. Ça, vous pouvez dire. Là, dans ces cas-là, on voit bien qu'il y a des cas de vie qui sont en fait directement impactés par des choix politiques. Est-ce que vous, cette expérience, vous êtes dit, ok, en fait, j'ai envie d'aller plus loin, de continuer à me battre avec la CGT, avec les syndicats, à m'engager en politique, je ne sais pas. Est-ce que ça vous a donné envie de vous investir un peu plus dans la vie syndicale, politique?
Oui. Nous sommes même prêts, nous sommes motivés pour nous syndiquer à la CGT. Voilà.
Comme ça a dit Sophie Binet, pour gagner, il faut se syndiquer.
Il faut se syndiquer. Donc, nous sommes motivés
à être syndiqués. Ouais.
Est-ce que peut-être vous avez un dernier message pour celles et ceux qui nous regardent? Je vois qu'il y a énormément de messages de soutien dans le chat qui vous disent bravo, c'était vraiment dégueulasse qu'on vous faisait vivre, etc. Donc, tous les gens qui nous regardent vous apportent beaucoup de soutien et vous félicitent pour la lutte que vous avez menée. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un dernier message pour celles et ceux qui nous regardent peut-être?
Bon, le message que nous avons, on tient à dire merci à tous ceux qui nous regardent, à tous les soutiens. Et bon, c'est le merci. Et puis bon, et dit aussi au patron de Château d'Eau, ou bien de d'où ça, je sais pas, de vraiment d'arrêter d'exploiter aussi les gens. Donc maintenant on connaît nos droits, donc ça, faudrait qu'ils essaient de voir aussi qui paye les ouvriers normalement, qui donnent leur salaire comme il se doit, qui les déclarent et qui fassent tout aussi pour leur donner, pour qu'ils soient régularisés aussi, pour avoir au moins une vie meilleure. Donc, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire.
Fadima Toubintou, un dernier mot. Merci. Pour celles et ceux qui nous écoutent.
C'est le remerciement, c'est vous remercier, vous déjà, les médias, tous les médias, qui nous ont aidés à faire connaître notre lutte à travers le monde, parce que on m'appelle aussi un peu de partout pour dire, ah, bientôt on t'a vu sur YouTube, bientôt on t'a vu. Donc je suis devenue une star, quoi. Donc c'est pour vous dire aussi merci de nous avoir donné cette notoriété. Et merci à tout le monde qui, de près ou de loin, nous ont soutenus, que ce soit financièrement, moralement. Sachez que votre soutien a été vraiment d'une grande aide. Et c'est grâce à vous qu'on n'a rien lâché. C'est grâce à vous qu'on a tenu 2 mois et demi sans rien lâcher. Donc, merci énormément. Et je dirais aussi à d'autres personnes qui sont dans la même situation que nous, de ne pas hésiter à se faire aider, qui se dirige vraiment vers la CGT. Peu importe le syndicat, mais je préfère la CGT parce que je fais partie de la CGT. Donc, qui n'hésite pas d'aller se faire aider, parce qu'une lutte ne se fait pas seule. Une lutte se fait avec du monde. Une lutte se fait avec... Voilà. Il faut se faire aider. et vous allez avoir gain de cause. Nous, on voit déjà le bout du tunnel. On a commencé déjà avec des titres de séjour. Et la suite, on attend la suite avec le prud'hum et le pénal qui va suivre. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.
Adèle, vous avez le mot de la fin pour conclure cette interview. Un dernier mot pour celles et ceux qui nous regardent.
Oui, et ben moi, ce sera un merci aux grévistes. Parce que quand on a annoncé la victoire de cette grève, j'ai reçu des messages de camarades de la CGT de tout le pays à qui ça donne vraiment beaucoup d'espoir. Parce qu'on ne va pas se mentir, la période, elle est parfois dure. Et voir que quand on se bat, on gagne, on peut gagner. Quand on est uni, quand on est aussi déterminé que vous, vous l'avez été... Mais ça a donné mais tellement de force à tellement de gens dans tout le pays, je peux vous le dire. Donc surtout, merci à vous d'avoir tenu et d'avoir gagné.
Merci.
Faut payer le loyer, se lever pour travailler, allonger les billets, galérer. Si t'es pas allé, si mes anneaux, ça n'a pas de dinaïma. Si mes anneaux, ça n'a pas de dinaïma. Si mes anneaux, ça n'a pas de dinaïma. Si mes anneaux, ça n'a pas de dinaïma.
On passe au deuxième sujet. Alors, il s'agit d'un réfugié qui, son prénom c'est Ali, il est palestinien, il est accusé de terrorisme maintenant et finalement il se retrouve en prison depuis 2 ans. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Ce jeune, il a 36 ans aujourd'hui, il est né en 90, en Cisjordanie. Il a eu des problèmes, comme tous les jeunes là-bas, il essayait de se battre, effectivement, contre l'occupant. Et évidemment, Israël ne fait pas de cadeau à tous ces jeunes qui ne peuvent pas accepter d'être dominés et d'être massacrés par la police israélienne et par les colons. Faut-il rappeler que les colons en Cisjordanie, c'est quelque chose. Alors, que s'est-il passé? Il est en 2016, finalement, il quitte Israël, il se réfugie en France, il demande le statut de réfugié qu'il va obtenir en 2020.
Alors, précisons, il est expulsé. Hein,
oui, c'est ça.
Il est expulsé après plusieurs incarcérations, dont la première aura lieu à l'âge de 14 ans. Il sera emprisonné à 3 reprises. Pour une durée totale de 4 ans, hein, sur différentes périodes. Alors, On parle d'incarcération, ce sont des détentions administratives, hein, alors c'est une incarcération, techniquement hein, c'est des internements, hein, c'est une des marques notamment du régime d'apartheid qui fait que la population qui est soumise à ce régime subit un système judiciaire alors inique évidemment, mais surtout différent du régime du droit commun. Donc là, on est à Naplouse, hein, donc on est aussi sur la Cisjordanie, mais ça vaut aussi pour les Arabes israéliens, hein, qui sont au nombre de 400 000. Donc il est incarcéré, il est expulsé d'abord en Italie. En Italie, il va être arrêté une première fois à l'issue d'informations et transmis par le régime israélien aux autorités italiennes. Cette arrestation et cette incarcération sera cassée par les juges italiens qui le remettront en liberté, estimant que les faits qui sont reprochés à Ali ont lieu en Israël et donc ne concernent pas la situation de cet étranger, de ces Palestiniens en Italie. Et à l'issue de cette première, de ce premier problème juridique, judiciaire, en Italie, Ali décide de venir en France. Et là, on est en
2016.
Voilà, c'est ça. Je te laisse continuer, pardon.
Voilà. Alors, que s'est-il passé après? Il a vécu sa vie. Il a été père de 3 enfants français. Et en fait, il a laissé derrière lui les camps de réfugiés de la Palestine. Et en fait, il a eu le statut de réfugié en 2020 parce qu'il a pu prouver qu'il a vécu des choses horribles de la part du régime israélien. Et ça, ça a été reconnu par, non pas l'OFPRA d'ailleurs, par la CNDA. Alors, il pensait que c'était fini. Mais en mai 2024, eh bien, il a été interpellé par la police antiterroriste, mis en examen et accusé de faits consistant à avoir commandité depuis la France 5 attaques ayant visé des véhicules de dirigeants vers les checkpoints dans lesquels circulaient des colons israéliens en Cisjordanie d'avril à septembre 2023. Alors ça, c'est ce qu'explique son avocat, Raphaël Kanz. Il était donc juridiquement accusé de complicité, de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, bien sûr le Hamas, et de financement du terrorisme. Donc finalement, il s'est retrouvé avec le statut de réfugié retiré et il s'est retrouvé en prison. Donc ça fait 2 ans qu'il est dans cette situation-là. Il y a depuis un comité de soutien qui s'est créé. Il y a eu des députés qui ont fait enfin leur boulot, c'est-à-dire qu'ils sont mouillés d'aller le voir en prison, de lui demander des explications, etc. N'empêche que ça pose quand même des problèmes. C'est souvent, on peut le dire, mais je vais vous dire pourquoi après. Souvent qu'un réfugié en France a des ennuis après avoir eu le statut de réfugié. On a connu ici une Turque, Kurtay, qui a gagné finalement après s'être battue avec une grève de la faim terrible dont on vous a parlé X fois dans nos émissions de l'Égrégor. Et là, c'est un Palestinien et on s'aperçoit que finalement, il y en a beaucoup puisque il semblerait que l'OFPRA a procédé à 1100 retraits de protection internationale, donc de statut de réfugié. C'est une hausse de 10% par rapport à 2024. C'est énorme, hein, c'est énorme. C'est-à-dire que, en fait, quand un réfugié obtient le statut de protection de la France, c'est pas fini pour lui. Il peut y avoir des surprises qui viennent la plupart du temps, et tout le temps d'ailleurs, du produit du pays d'origine. Mmh. C'est ainsi qu'il y a des Tchétchènes qui ont eu des problèmes en France à cause de la Russie. Pourtant, la Russie est condamnée par la France, etc., comme étant un régime qui n'est pas démocratique, entre guillemets, pour eux. Mais en fait, on s'aperçoit que ça a été la même chose pour la Turquie. La Turquie, pour Zara Kurtay. Et puis là, c'est Israël. Bon, il y en a d'autres, il y en a certainement beaucoup d'autres. on va les retrouver bientôt, je pense, j'espère que ça va faire en sorte que les langues se délient et qu'on sache un petit peu ce qui se passe au niveau du statut de réfugié en France.
Alors, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut interroger cette histoire. Alors, d'abord, il y a les axes juridiques, les axes judiciaires. Donc, la première chose, c'est, tu l'as dit, sur la qualité de réfugié d'Ali. Donc, ce statut, normalement, il est donné dans un premier temps pour 10 ans. Après une enquête, c'est pas un cadeau pour avoir le statut de réfugié. Faut vraiment se bagarrer.
Faut vraiment le prouver. Hein.
Là, en plus, ça n'a pas été l'OFPRA, mais ça a été la Cour nationale du droit d'asile. Donc, il y a déjà eu un contentieux qui a été réglé. Sur le fait que Ali se soit tenu, on va dire, correctement en France, faut rappeler que Ali a absolument eu aucun problème sur sa situation. Il a construit, tu l'as dit, une vie de famille. Il a bossé, etc. Donc pas de problème là-dessus. Cette arrestation, elle vient, tu l'as dit, par demande des autorités israéliennes. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'elles veulent les autorités israéliennes ? Récupérer cet individu pour le juger en Israël, on ne sait pas, et alors qu'elles ont même procédé à son expulsion, etc. etc. Et depuis quand la justice française se base sur des éléments, tu l'as dit, issus d'un pays qui a été reconnu comme un pays oppresseur, puisque cet individu a connu le statut de réfugié politique. Alors ça, c'est déjà la première chose. Donc là-dessus, la Cour de cassation, la Cour d'appel, pardon, s'est déclarée incompétente pour répondre au problème. Il va y avoir une montée en Cour de cassation pour voir ce qui peut être fait sur le retrait ou pas de ce statut de réfugié. Puis il y a la deuxième chose, c'est-à-dire la question de la présomption d'innocence et de l'incarcération d'Ali. Alors Ali, il a été incarcéré, donc il est dans la maison d'arrêt d'Oni, hein, dans le Val d'Oise. Il a été placé dans un quartier de haute sécurité, dans le quartier de haute sécurité de radicalisation, d'évaluation, hein, de la radicalisation. Donc ça, c'est à Vendin-le-Vieil. C'est la grosse prison de sécurité max qui est censée accueillir d'une part les détenus dits radicalisés, d'autre part les narcotrafiquants. Hein, c'est les super prisons dont on fait la publicité depuis quelques mois, voire quelques années là pour à la fois avoir une évaluation mais aussi des conditions de sécurité qui sont maximum. Rappelons que Ali n'a été jugé pour le moment pour rien du tout. Donc il est en détention provisoire.
Et en plus, quand tu disais que sa radicalité entre guillemets avait été examinée par des spécialistes, finalement les spécialistes en question ont dit qu'il n'est pas du tout radicalisé ce garçon.
D'autant plus que Ali a déclaré sa proximité idéologique et politique vis-à-vis d'une branche du mouvement national palestinien qui est Al-Fateh, donc la branche la plus importante et la plus intégrée, on va dire, dans le champ politique international, puisque le Fateh, alors vous le savez peut-être, hein, à l'intérieur du mouvement national palestinien, il y a différentes factions. La plus grande et la plus institutionnelle, c'est le Fatah, c'est comme le Fatah. On dit en français, en arabe, Al-Fateh, acronyme, c'est-à-dire le destin. Voilà, c'est eux qui sont à la tête du mouvement national palestinien depuis bientôt maintenant 40 ans. C'est la même obédience que Mahmoud Abbas, Arafat, etc. En tous les cas, c'est vraiment l'institution, quoi. Là-dessus, on va dire, c'est pas vraiment la tendance la plus radicale du mouvement national palestinien, quoi. Donc 2 ans de prison et de détention provisoire, normalement, c'est la détention maximum à laquelle on peut aboutir dans une détention provisoire. Or, aujourd'hui, on a appris que la cour d'appel du juge de détention et de la liberté, donc celle qui doit statuer sur la remise en liberté des individus qui sont incarcérés, a refusé la libération d'Ali pour des raisons que nous ignorons à ce jour, puisque les conclusions n'ont pas été publiées, mais la décision a été rendue. Donc Ali repart, on va dire, pour un tour
de
6 mois minimum. Mais bon, il va y avoir une montée. Il est fort probable que cette montée en gamme sur la juridiction, en l'occurrence la CNDH, la Cour nationale des droits de l'homme, la Cour européenne de justice, va évidemment foutre en l'air tout ça. Mais d'une part, ça crée un précédent. D'autre part, évidemment, il va se passer énormément de temps avant que cette décision positive soit rendue. Et ça, ça pose quand même une question qui est vraiment troublante. Alors, que les autorités françaises et les autorités judiciaires françaises accompagnent la folie barbare et extrémiste de l'État israélien n'est pas forcément très étonnant, mais que des institutions judiciaires soit entré dans dans ce délire de la qualification de terrorisme sur tout ce qui s'écarte de la ligne et tout ce qui se transforme des militants politiques qui ne sont pas des supplétifs de l'ordre dominant en les rangeant dans la catégorie terroriste devient extrêmement, vraiment très inquiétant. Et puis, enfin, la dernière question, c'est quand même, qu'est-ce que c'est que cette suggestion de l'État français aux desiderata de l'État israélien ? Parce que on en arrive quand même de la soumission véritablement intégrale, alors que ce soit sur les centaines et centaines de condamnations et de procédures pour apologie du terrorisme qui ont été menées par des groupes ou des organisations proches de l'État israélien, que ce soit sur la loi contre l'antisémitisme et le racisme, dite loi Yadan, qui va certainement revenir sur le terrain législatif d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Et puis là, on voit que les institutions judiciaires sont en train d'entrer dans ce délire, les deux pieds dedans, et sont en train de prendre des habitudes et des décisions qui vont créer des précédents. Alors, on va essayer de publiciser ce truc et puis d'entrer dans le détail avec les soutiens d'Ali. On espère qu'on les aura de vive voix. Mais c'est important pour nous à la fois de poser le truc comme ça. Et puis aussi, surtout, ça nous permet, nous, d'avoir une solidarité politique concrète et réelle à partir d'ici avec, évidemment, le peuple palestinien. Pourquoi ? Parce que et on se sent parfois démunis par rapport à ce qu'on voit et à ce qui se passe là-bas. Et à juste titre, hein, parce que c'est loin, parce qu'on ne sait pas comment intervenir, parce qu'on peut le faire par caractère humanitaire, notre soutien aux flottilles, etc., etc. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que et l'impérialisme et la solidarité et l'anticolonialisme, ils se construisent d'abord ici, contre notre propre État, avec évidemment une solidarité avec ceux qui luttent.
On a du boulot en France.
Alors, on a du boulot, mais là, on a un cas concret qui nous permet justement à la fois d'afficher une solidarité réelle, matérielle et concrète et politique avec les réfugiés palestiniens, et en plus, d'avoir une critique par rapport à notre État. Donc, quelque part, là, on a une lutte et une solidarité qui nous permet de cocher les cases d'un combat réel et tangible et qui soit différent d'une solidarité humaine et humanitaire qu'on peut avoir, mais d'être dans un véritable cas d'internationalisme et de soutien à une lutte de libération nationale telle que nous, on l'entend, c'est-à-dire en affichant un soutien, mais en dénonçant aussi notre propre gouvernement, c'est-à-dire en menant la lutte à partir de là où on peut le faire avec nos armes et nos moyens. Et on espère qu'on pourra creuser ce sujet. On vous en reparlera le plus rapidement possible, j'espère.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de... Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligari à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Jewels fast, run them jewels fast, run them, fuck the slow-mo.
Not forgot!